bienvenue à bord.
Le passager de Aranjo sont priés de monter à bord.
Avec tout son équipage, vous souhaitez un bon voyage. Attachez votre cœur et vos ceintures.
Bon voyage, monsieur. Bon voyage, madame.
Bon voyage tout le monde, ici c'est votre commandant de bord Roger Muntu, la voix de l'Amérique en direct de Washington, la capitale américaine. Un grand plaisir de vous savoir nombreux à nous capter comme vous le faites chaque soir entre 20h et 21h, temps universel. Et comme vous le savez bien sûr, chaque semaine nous avons 10 invités dans cette émission. Attachez bien vos ceintures de sécurité parce que vous allez découvrir des gens super super cool dans cette émission jusqu'à la fin de cette semaine, on vous l'avait promis, parce que nous sommes à Omni Hotel à Washington DC, la capitale de United States of America. Préparez-vous tout de suite, on décolle comme d'habitude. Et bien sûr, on l'a dit depuis juin, des jeunes leaders africains séjournent ici aux États-Unis pour participer au programme Mandela Washington Fellowship, ou MWF, financé par le département d'État américain, le MWF, et le programme phare de l'initiative pour des jeunes leaders africains. Il y a un effort particulier du gouvernement américain pour investir dans les jeunes leaders africains. Nous sommes bien sûr sur place, comme je le disais en titre, avec des collègues de VO Afrique, mais aussi avec nos invités qui sont là pour répondre à nos questions. Et vous êtes nombreux à avoir envoyé aussi vos questions pour que nous puissions les poser aux amis qui sont ici, qui viennent de plusieurs horizons, qui viennent de plusieurs pays aussi, on doit le dire. Cette année, plus de 700 jeunes leaders participent à ce programme de MWF, qui est le programme d'échange académique et professionnel, pourquoi pas, de 6 semaines ici aux États-Unis. Les participants viennent de divers horizons professionnels, y compris les organisations internationales, la défense des droits des femmes, le milieu universitaire, j'en passe, même l'entrepreneuriat social et les affaires. Voilà, ce soir, nous avons bien sûr le plaisir et l'honneur de recevoir encore une fois nos invités à ma droite, parce que vous qui ne nous regardez pas, vous nous écoutez peut-être à la radio. À ma droite, j'ai Sophia et à ma gauche, j'ai Ibrahim. Ils vont se présenter et bien sûr, on va commencer cette émission. Mais d'abord, je m'en vais saluer nos amis qui sont en train de nous capter, la communauté francophone qui nous capte ce soir à Téma et à Accra. Oui, exactement. Merci beaucoup à eux qui continuent à écouter RM Show chaque soir entre 20h et 21h, temps universel. Nous revenons dans un instant. Et voilà, et là je commence avec Sophia. Sophia, bonsoir.
Bonsoir Roger. Un plaisir d'être là.
Non, c'est un honneur pour nous. Attends, Sophia. Sophia, le nom de famille, c'est
Sophia Assani. Assani, hein. Des îles Comores.
Des îles Comores. Oui. Waouh, ça a toujours été un rêve pour moi d'aller aux îles Comores.
Bienvenue, hein, à tout moment, oui.
Sérieux?
Franchement, vous ratez quelque chose. Si vous n'avez pas été encore là-bas, ouais. C'est le moment de visiter.
On va manger les arachides là-bas.
Ah non, il y en a à gogo.
Inside joke. Ibrahim avec nous. Ibrahim, bonsoir.
Ouais, bonsoir Roger, moi c'est Ibrahim, Ibrahim Karacha Capral, je viens de la RDC, République démocratique du Congo.
Ah d'accord, et où exactement, parce que vous avez un grand pays là-bas Ibrahim?
Ah, je suis basé à Goma, à l'est du pays, dans la province du Nord Kivu. C'est un plaisir pour moi d'être ici, merci de me recevoir.
Non, c'est un honneur en tout cas Ibrahim, Mutoto à Goma comme on dit.
Exactement, Mutoto à Goma.
Mutoto à Goma. Ou Salmi va-tu à Goma avec nous capter ce soir quand même?
En tout cas, Nawaza Banasiki.
C'est comme ça que ça se passe. Merci Ibrahim d'être là. Sophie, alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ça fait de... Nous sommes là, je pense, depuis lundi. Et on voit qu'il y a beaucoup de choses qui se passent ici. Alors, pour vous, les professionnels, en ce qui se passe ici, dites-nous aujourd'hui, c'est quoi exactement ici à Omni Hotel à Washington?
Bah, à Omni Hotel à Washington, on a le sommet. En tout cas, un sommet très spécial, puisque aujourd'hui, le programme Mandela Washington Fellowship fait ses 10 ans. Donc, 10 ans depuis que ce programme phare existe, un programme qui met en lumière et qui accompagne des jeunes leaders dans ce qu'ils font et à faire plus d'impact dans leurs différentes communautés. Et je pense que les gens ne sont pas prêts et je pense que c'est pas pour rien, c'est pas un hasard que ce programme reste le préféré du gouvernement américain, puisque ce programme aura, je pense, en tout cas, je le crois, dans les 10 prochaines années à venir, je pense que ce programme aura un impact vraiment poignant. Et je sais que les jeunes que vous rencontrez ici sont des jeunes qui vont changer l'Afrique, et soyez prêts, ce changement aura lieu.
Waouh, j'adore déjà cette introduction. Ça, je peux dire, Sophie, là, vous nous mettez déjà exactement de l'eau dans la bouche, comme on dit. On va en parler. Ibrahim, alors, un peu pour rebondir à ce que Sophie a dit, qu'est-ce que vous avez aimé pendant les 3 séjours jusqu'à aujourd'hui que vous êtes à parler ici à Washington?
Ah, merci Roger pour la parole. En fait, ces programmes, comme Sophie a dit, c'est un programme financé par les gouvernements américains.
Oui.
Ils cherchent les jeunes dans tous les pays d'Afrique, Afrique subsaharienne, pour qu'ils viennent ici aux États-Unis pour connecter avec les citoyens américains.
Exactement.
Apprendre d'eux, prendre des partenariats, mais aussi apprendre des cours. Et aussi après rentrer dans nos pays respectifs pour impacter et implanter les idées qu'on a reçues des enseignants ici aux États-Unis. Donc c'est un programme qui cherche à mutualiser les relations USA-Africa et mais aussi un programme qui cherche à ce que les Américains aussi apprennent des les Africains apprennent des Américains et les Américains apprennent aussi des Africains.
J'apprécie
en tout cas l'échange et les networking, les réseautages que le programme a offert à tous les jeunes, spécialement pour moi, parce que j'ai un bon coach qui m'a vraiment encouragé dans mon projet et il m'a donné des tips pour aller implémenter les projets dans 5 pays en Afrique. Donc je crois que je rentre déjà là pour implémenter les projets.
Et nous y reviendrons d'ailleurs toujours dans cette émission. Mais j'aime beaucoup la partie que vous dites, Brahim, échange entre vous et les États-Unis et les Américains aussi, parce que je continue à recevoir cette question. On dit, certains disent, bah oui, c'est un programme où ils sont en train de former ces jeunes pour travailler pour la CIA, je sais pas moi et quoi, et pourtant c'est un programme d'échange, comme je le disais, académique et professionnel. D'après vous, Ibrahim, qu'est-ce que, bon, vous avez un peu parlé de votre coach, ce que vous avez appris, mais qu'est-ce que vous pensez les Américains gagnent de vous?
Pour moi, ce que je pense, c'est, vous savez, l'Amérique, c'est un pays à une diversité culturelle, mais il y a des points, des contacts que les Américains n'ont pas encore découverts chez les Africains. Donc, nous, en venant ici, nous venons de plusieurs endroits. Nous sommes venus avec plusieurs personnes qui viennent des villages. Peut-être des villages qui ne sont jamais représentés ici aux États-Unis. Par exemple, hier, moi, dans mon université, j'étais avec un King qui vient de Oukou, au Cameroun.
Au Cameroun,
du Cameroun, tu vois. Donc, c'est son expérience, sa tradition. Les Américains, peut-être, ne savent pas comment est-ce qu'ils vivent là-bas. Et aussi, de la RDC, on a toujours entendu ici aux États-Unis que la RDC, c'est un pays à guerre et tout. Il n'y a que des troubles. Alors qu'il y a aussi des jeunes comme nous là qui ont des initiatives qui peuvent inspirer les Américains. Par exemple, j'ai des projets, comme je l'ai dit, mais on va y revenir, qui peuvent aussi inspirer les Américains. Comment est-ce que nous, on compte pallier aux problèmes socio-économiques dans notre pays.
Voilà. Wow.
Je pense pour ajouter, Roger, je pense pour ajouter à cette question-là.
Que Ibrahim a dit,
pour ce qui est de la CIA ou autre, je pense que ce n'est pas sage d'avoir cette vision, parce que c'est pas n'importe quel leader qui peut, en tout cas, avoir ou sinon construire. Enfin, la continuité de ces relations-là ne dépend de qui tu es, dépend des projets que tu as, puisque je pense qu'on a été nombreux à recevoir, à bénéficier de ce programme-là, mais je ne pense pas qu'ils ont tous continué à collaborer avec les Américains. Donc c'est plus qui tu es, qu'est-ce que tu proposes, qu'est-ce qu'eux ils peuvent apprendre également de vous, et aussi qu'est-ce que tu peux apporter dans ton continent. Et je ne pense pas que qu'il y a eu, puisque avant de venir, il y a quand même, puisqu'avant de vous inscrire, vouloir venir, il y a quand même un chemin à faire, il y a des formulaires à remplir. Jamais on a vu ce genre de choses, et quand on a engagé avec les différents coachs qu'on avait, c'est pas des gens, on n'a rien vu de tel. En tout cas, c'est des gens qui viennent avec une bonne foi de vouloir accompagner, puisqu'on va pas se mentir, on a beaucoup à apprendre des États-Unis, tout comme les États-Unis a quand même pas mal de choses aussi à apprendre de nous, puisqu'on a, il y a la diversité culturelle. Il y a bien d'autres choses, mais aujourd'hui, l'Afrique a changé. Mmh. On n'a pas devant nous la même Afrique. Aujourd'hui, on a des jeunes, des jeunes avec des visions, des jeunes qui ne seront pas télécommandés, des jeunes qui viennent avec des idées. Et en tout cas, dans ce programme-là, nous, on a été à Syracuse Université. Syracuse est une prestigieuse université qui est devant Oxford, qui est devant Harvard, pardon.
Donc, Syracuse est renommée.
Donc aujourd'hui, vous n'allez pas nous dire que à Syracuse, avec tout ce qu'ils ont à nous apporter, ils vont nous apprendre à comment espionner. On est d'accord. Ils vont nous apprendre à comment implémenter nos idées, à comment renforcer les idées qu'on a afin d'impacter dans nos différentes communautés.
Dans différentes communautés. C'est bien que vous ayez ajouté à ce que Ibrahim a dit. Hein. Revenons un peu à vous, Sophie. Vous étiez à Syracuse, n'est-ce pas, à New York, c'est ça. Et c'était quoi votre spécialité? Qu'est-ce que vous avez appris là-bas pendant les 6 semaines que vous êtes resté là-bas, plus précisément?
Ok, ben moi et Abraham, on a été dans le public management track. Donc, vous savez très bien, c'est le domaine en tout cas de Syracuse. Donc là-bas, on a eu à apprendre un peu plus sur comment diriger en tout cas un pays, dans tout ce qui est domaine la fonction publique. Donc on a eu à être très éclairé sur cette question-là. Donc en tout cas des questions pour certains la plupart en tout cas on est déjà dans le bain. C'est des professionnels. La plupart des seniors, les gens avec qui on a été là-bas. Je pense qu'Abraham l'a mentionné ici. On avait le roi Ernest, un roi qui a devant lui 36 communautés au Cameroun. Wow. Ça s'appelle comme le Cameroun. Donc quelqu'un avec ou sans éducation, il restera un roi. Donc cela prouve à quel point l'éducation aujourd'hui et la mentalité des Africains a changé et comment il suffit pas d'avoir le pouvoir, mais comment je vais impacter ma communauté dans ce pouvoir-là. Donc je pense que ça a été la question, enfin ce qu'on a appris là-bas à Syracuse, des coachs, des professeurs de renom avec qui on a pu bénéficier de différents programmes. Et aujourd'hui, je pense que tous ceux qui ont été là-bas sont en mesure de gouverner, puisque la plupart, encore une fois, Ernest, on lui a demandé où il se voit dans 10 ans. Il a dit président de la République.
Ah, waouh!
Eh ben oui, donc, donc ce sont des gens qui sont prêts. Les gens qui ont été là-bas, ce sont des gens qui sont prêts, des gens qui ont des visions. Et Syracuse nous a donné toutes les bases dont on aura besoin pour réaliser ces visions-là.
Waouh! Ces bases-là, et certains se disent, mais ces bases-là, Sophia, vous ne les avez pas en Afrique, ou vous ne les avez pas dans votre pays, dans les Comores, ou comment ça se passe? Seulement, il faut venir aux États-Unis. Quelle est la différence, en fait?
Ok, on va
pas. Il ne faut pas me dire que chez vous, vous n'avez pas de très bons profs qui peuvent bien aussi enseigner.
On en a. Ouais. On va pas se mentir. Aujourd'hui, si Syracuse est devant Harvard, vous n'allez pas me dire que Syracuse n'est pas devant l'université des Comores. Quand même, on est d'accord. On parle de Harvard, donc forcément. En tout cas, je pense que le gouvernement américain a été très stratégique, puisqu'il n'a pas fallu emmener seulement des leaders africains, mais ils ont choisi les universités dans lesquelles ils ont envoyé ces jeunes leaders, puisqu'ils pouvaient très bien nous envoyer dans, puisque qui allait savoir si on était encore dans l'Afrique d'avant, qui allait savoir. L'importance pour certains serait juste de savoir que Abraham, les Congolais allaient juste dire Abraham il est en Amérique,
aux
États-Unis, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais eux, ils ont choisi cette option-là de nous envoyer dans les meilleures universités afin qu'on puisse bénéficier des meilleurs programmes possibles afin de pouvoir impacter nos différentes communautés.
Mais aussi à pouvoir aider à répondre à la question.
À la question de Sophie, oui.
En fait, pourquoi les États-Unis, comme vous avez demandé, en fait, les programmes ne cherchent pas que les professeurs qui sont aux États-Unis. Mais les programmes amènent des professeurs qui ont des backgrounds aussi, qui ont travaillé.
Et même les écoles, comme Sophia disait, qui sont réputées. Il faut dire qu'on a plus de 5000 universités ici aux États-Unis.
Exactement.
Quand on parle de Syracuse ici aux États-Unis, même un Américain.
Oui, exactement. Parce que Syracuse, c'est aussi l'université où le président actuel Joe Biden a étudié.
Exactement.
Même le gouverneur de New York vient de Syracuse, et même le maire de la ville. Donc, les programmes amènent des professeurs qui ont déjà travaillé en Afrique, qui comprennent les Africains et qui comprennent la culture aussi américaine.
Exactement.
Pour essayer de matcher et amener disons comme à des compétences
oui.
et qui peuvent aider les jeunes leaders à implémenter leurs activités.
Ouais.
Mais aussi les programmes donnent aux jeunes, par exemple moi et Sophie, on a été dans Public Management Track, qui est la gestion des affaires publiques. Les programmes orientent des jeunes qui ont des visions pour, par exemple, se présenter aux élections électorales dans notre pays.
Ah bon, aux élections même?
Oui, vous donne, vous coach, comment est-ce que vous pouvez y aller, il vous donne l'historique par rapport à certains acteurs politiciens américains, comment ils sont arrivés là-bas. Mais aussi, les programmes vous donnent le management de, par exemple, la finance, l'argent des taxpayers, comme on dit ici aux États-Unis, les taxes et tout. Donc, les programmes vous donnent tout ça pour vous mettre, en tout cas, sur le bon track du management quand vous retournez en Afrique.
Il y a aussi Abraham, le fait qu'on les rencontre. Il ne suffit pas de les mentionner, mais aussi, quand on parle de networking, on est d'accord. Je pense que l'université de Syracuse a mis le paquet, puisqu'on a rencontré des gens quand même influents. On a eu à rencontrer le maire de Syracuse, par exemple. Et pour tous ces jeunes qui comptent se lancer dans la politique, mais c'était la meilleure personne à rencontrer, en tout cas à Syracuse, puisque il s'est lancé dans la politique. C'était un candidat indépendant, donc il n'a pas eu besoin d'un parti politique, bien que il vient d'une famille assez
indépendant.
Oui, indépendant. Ah. Donc alors que sa famille,
il ne venait pas être démocrate ou républicain.
Non. Alors que sa famille, c'est une famille engagée dans la politique, mais il a préféré faire la différence et sans engager autrement, représenter la jeunesse et faire confiance en ce qu'il a, en son programme qu'il a eu à proposer. Aujourd'hui, il est là où il est. Donc je pense que c'était inspirant, et je pense que tous ces jeunes parmi nous qui ont l'ambition de se lancer dans la politique, ils ont compris que oui, c'est possible. S'il l'a fait, pourquoi pas nous?
Pourquoi pas nous? Exactement. Ibrahim, vous étiez en train de parler d'un bon coach, et vous avez beaucoup aimé ce coach et ce qu'il vous a donné comme matière ou en coaché. C'était quoi exactement, si ça vous dérange pas de partager, c'était en quoi exactement et qu'est-ce qui vous a beaucoup plus vous êtes dit waouh, ça vraiment je pense que j'ai appris quelque chose.
Mon coach, il m'a donné les compétences nécessaires, parce que je lui ai présenté mon projet au départ. Le projet s'appelle Centre d'automatisation des réfugiés à Goma, et lui, il a travaillé une fois pour USAID au Kenya.
Ah, ok, donc il a l'expérience.
Au Kenya. Il a travaillé dans des projets de réfugiés, d'insertion des réfugiés, et il a aussi travaillé, je crois, au Cameroun. Alors, il m'a donné, parce que quand je lui ai présenté mon projet, il m'a dit, c'est bon, les projets, le contexte, il est clair, mais Abraham, est-ce que on peut pas, par exemple, ajouter aussi ces programmes ou ces activités? Il m'a aussi amené même quelque part où il y a un centre de réfugiés ici, là-bas, à Syracuse, et j'ai appris beaucoup, de cet endroit-là. Et il m'a donné aussi quelques papiers, quelques ressources pour m'inspirer des successful stories, comme tu as dit, les histoires de succès. Et voilà comment moi aussi je vais
implémenter.
J'ai enrichi en tout cas mon projet.
Sophia, avant de parler aussi de ce que vous avez appris, mais qu'est-ce que vous faites chez vous dans votre pays? Votre spécialité, c'est dans quoi?
Ben d'accord, je suis journaliste de profession, et récemment, en tout cas avant de venir, j'ai été promue rédactrice en chef adjointe de.
On applaudit quand même, bravo!
De la télévision nationale des communs.
Mais on est avec une bosse ici, il faut faire attention. Bravo.
Merci. Ouais. Et je suis également engagée dans les questions de paix, sécurité. Je travaille avec une organisation au niveau national appelée Salam, une organisation engagée dans la médiation, tout ce qui concerne la paix, au niveau des Comores, et également avec l'Union africaine quand l'occasion se présente dans les questions électorales. Donc dans la question électorale, et puis je suis observatrice électorale. J'ai observé près de 8 pays d'Afrique, Afrique.
Ouais.
Et j'ai eu à réaliser le premier documentaire du département politique et sécurité de l'UIA sur l'observation électorale en Afrique. Donc on a eu à montrer un peu l'impact, pourquoi l'observation, qu'est-ce que ça apporte, parce que c'est une question jusqu'à aujourd'hui. Les gens ne voient toujours pas clair. Certains confondent, puisqu'ils s'attendent peut-être à ce que l'observateur puisse le changement de l'observateur en fait ne se fera pas d'une manière instantanée. Ouais. Parce que en fait l'observation vise à observer un certain pays et faire un rapport. Ce rapport là bien évidemment, quand par exemple dans certains quand on était en Angola, j'ai eu à échanger avec un citoyen du pays et il a dit que oui, il y a une grosse différence puisque les propositions faites par l'Union africaine dans leur dernier rapport, la plupart ont été prises en compte et aujourd'hui le pays a beaucoup amélioré en tout cas dans la question démocratique des élections et la transparence. Donc je pense qu'il a fallu montrer un peu l'impact de l'observation. C'est peut-être pas ce que et donner expliquer un peu ce que c'est afin d'éviter toute confusion. Donc voilà, et ce que je compte faire après Syracuse, c'est l'inclusion des jeunes dans la politique et dans le secteur public, la fonction publique.
La fonction publique, ça c'est très important parce que on le sait tous que je pense la jeunesse c'est plus de 75%, je sais pas moi encore exactement, mais la jeunesse a un plus grand nombre en Afrique et c'est très important qu'ils puissent savoir ce qu'ils font dans la fonction publique, hein, c'est très important.
Effectivement.
Ouais. Et ma question avant de passer à Sophia, parce que vous parlez de des élections, voilà, de corps électoraux, je sais pas moi. Qu'est-ce que vous pensez de l'Afrique aujourd'hui? Parce que chaque fois, d'après votre expérience, Sophia, chaque fois qu'il y a élection en Afrique, les gens s'attendent toujours que l'opposition va dire non, c'est pas vrai. Il y a eu, on a fraudé, on a volé ceci, on a volé les voix. D'après vous, d'après votre expérience, c'est quoi exactement? Est-ce qu'il n'y a pas, tout n'est pas limpide, tout n'est pas clair? Qu'est-ce qui se passe exactement d'après votre expérience? Vous avez parlé d'autres pays, c'est pas seulement des Comores, mais d'autres pays aussi où vous avez observé. C'est quoi exactement?
Je pense le problème aujourd'hui en Afrique, et je pense c'est aussi l'éducation, je pense qu'on manque de patriotisme. Et que ce soit aux Comores ou ailleurs, la plupart, c'est dommage de constater que la plupart des dirigeants, en fait même les opposants, quand ils veulent accéder à la présidence ou autre responsabilité, c'est pour profiter de leurs moments également. En fait, il n'y a pas réellement cette volonté de vouloir changer les choses. Il n'y a pas réellement cette volonté de vouloir... Certains opposants sont plus à l'aise parce qu'ils se disent peut-être je me suis présenté aux élections et prochain gouvernement je serai premier ministre peut-être. Donc ils ne se donnent pas vraiment la peine de se battre pour le peuple. Pour la plupart, je veux pas généraliser, mais je pense pour la plus tard, je pense de mon expérience, de mon point de vue personnel, je précise, je pense qu'il manque de patriotisme et il y a plus les intérêts personnels qui sont mis en avant et je pense que c'est ça qui coince aujourd'hui la politique en Afrique. Et vu l'idée de vouloir peut-être booster les jeunes dans la politique, peut-être que
c'est ce que j'allais
jeunes...
dire. Alors là, vous avez beaucoup de boulot à faire, Sophia, d'après ce que vous voulez faire pour sensibiliser ces jeunes là
c'est clair, oui c'est clair, mais on va essayer.
Mais peut-être pour compléter,
oui,
Sophia,
oui,
nos dirigeants actuels, beaucoup n'ont pas été préparés avant à diriger. Ça aussi les problèmes. Parce que quand vous êtes un leader, on vous dit, vous devrez connaître que ça peut réussir tout comme ça peut échouer. Maintenant, quand les résultats sont beaucoup ne sont pas sportifs, à comprendre que, oui, on m'a pas voté. Vous voyez ce que je dis? Ouais, donc c'est ça aussi ce qui pousse l'opposition toujours à croire que non, j'ai gagné, on a volé pour moi, on a volé. Mais aussi parce que l'expérience dans plusieurs pays africains qu'on a vu, beaucoup ont triché. Donc voilà. Donc,
l'expérience.
On pense que même si on a perdu,
c'est fini,
on a réussi.
C'est devenu automatique.
Ouais, c'est devenu automatique. Donc il faut aussi apprendre à comprendre que souvent, tu peux réussir comme tu peux réussir.
Voilà.
C'est une question de transparence. La transparence, elle manque en Afrique.
Oui, transparence. Mais comme Abraham dit aussi, comme on dit ici aux États-Unis, be a good sport. Be a good sport, c'est-à-dire dans le sens où accepte. Si t'as perdu, t'as perdu. Ouais. Bon, écoute, bonne chance à l'autre. C'est comme ça se fait ici. On félicite l'autre. Écoutez, félicitations, il a réussi, c'est tout. Pas trop de questions nécessairement, je pense que. Mais Abraham, revenons un peu aussi chez vous. Vous êtes, et ce que vous faites, parce que vous parlez aussi de zones de conflit avec votre coach et tout ça. Vous venez d'une région où il y a des conflits aujourd'hui. où il y a la guerre, où on tue des gens, où les mamans sont violées, où beaucoup de choses se passent là-bas. Et moi, chaque fois, dans nos émissions, on en parle de tout ce qui se passe à Goma, à Beni. Voilà. Ça ne doit pas du tout être facile pour des jeunes leaders comme vous. Et ce que vous essayez de faire pour changer, voilà, vous venez ici aux États-Unis dans ce programme pour apprendre, toujours pour to better your community, comme on dit en anglais, rendre votre communauté meilleure. Mais du coup, vous devez avoir des défis.
C'est vrai, les défis sont là, comme vous le dites, parce que Goma, c'est d'abord une ville touristique, mais qui a un problème d'accueillir des visiteurs parce que
sécuritaire.
Plusieurs personnes qui veulent visiter se disent mais non, je peux pas aller là-bas, il y a la guerre, il y a très belle ville mais qui a une mauvaise réputation malheureusement. Mais ce n'est pas facile pour moi de vivre là-bas, surtout pour mes projets parce que moi je travaille avec les réfugiés.
Exactement.
Et les réfugiés sont localisés dans des endroits un peu éloigné de la ville. Et quand je dois organiser une activité, je suis obligé de me déplacer. Exactement. Pour les rencontrer.
Ouais.
Donc parcourir des kilomètres pour aller là où les réfugiés sont, pour que je m'imprègne de leur situation et voir comment je peux les aider.
Wow.
Alors actuellement, je suis en train de travailler sur un projet qui s'appelle Centre d'automatisation des réfugiés. Là, je cherche à prendre les femmes parce que j'ai rencontré certaines femmes qui ont des initiatives. Ils sont des entrepreneurs, mais qui n'ont pas le capital. Alors je me suis dit, avec les membres fondateurs de notre organisation, voyons si on peut cotiser quelque chose, un montant $1,000, $2,000, et donner au moins à 30 ou à 50 mamans qui ont des bonnes initiatives pour les encourager et voir comment est-ce qu'ils peuvent sortir de la misère. Mais aussi, on a un programme qui est lié à inclure les réfugiés qui ont des talents, par exemple les sportifs, les musiciens, les artistes, les mettre dans des environnements qui les favorisent à se développer aussi. Mais aussi, j'ai un autre projet qui s'appelle Peace Boost à Great Lakes. Peace Boost à Great Lakes, c'est une plateforme que je suis en train de construire pour connecter les jeunes de la RDC, du Rwanda, du Burundi, de la Tanzanie, de l'Ouganda, pour parler sur les questions sécuritaires et les questions de la paix. Comment ils peuvent bâtir la paix sur les réseaux sociaux et comment est-ce qu'ils peuvent prévenir les conflits.
Ouais.
Donc les sites, il est déjà en marche. Je compte créer un mobile application qui sera accessible sur Google, Google Store, mais aussi pour sur Apple. Donc pour les gens qui utilisent Android et iPhone, ils auront accès au contenu de l'application. Il y aura les cours, il y aura des vidéos comme Sophia, elle est parmi les intervenants là-bas. Elle va délivrer quelques vidéos où tu vas parler sur comment bâtir la paix sur les réseaux sociaux. Et mais aussi, on aura la partie networking. Donc les acteurs, les parties prenantes comme la police, l'armée, les jeunes auront accès directement à eux dans l'application.
Super.
Ils peuvent poser des questions.
Wow.
Et puis ce sont les jeunes des 5 pays, c'est pas seulement les jeunes de la RDC,
ouais,
parce que vous voyez quand les conflits affectent un pays de la région des Grands Lacs, il affecte directement aussi les autres pays. C'est le cas même
du
Rwanda qui a tué 1 million de personnes au Rwanda, mais dont les répercussions ont tué jusque là plus de 12 millions de personnes en RDC.
Wow.
Parce qu'on avait ouvert nos frontières pour les accueillir et maintenant la répercussion est déjà là, vous voyez. L'RDC est devenue plus vulnérable que le Rwanda, mais personne n'en parle. C'est pourquoi je cherche à créer, à bâtir ces plateformes, mais je compte aussi voir si je peux inclure les sites Soudan, les Soudans et aussi les Kenyans, pour que les Peace Boost à Great Lakes aient un impact significatif.
Pourquoi pas les Comores,
exactement.
Voilà. La vision, c'est réunir les jeunes, les mettre dans une plateforme où ils peuvent échanger, ils peuvent apprendre aussi des cours et aussi ils peuvent networking.
Mais d'après votre expérience, et je ne veux pas vous parler trop politique, mais deux fois quand je parle aux ressortissants de Goma, de Kivu, ils se disent, c'est comme si le gouvernement leur a abandonné. Est-ce que c'est ça, vous qui êtes là, sur place, sur le terrain, est-ce que c'est ce que vous ressentez? Est-ce que le gouvernement congolais, je parle, ne fait pas trop pour protéger ce peuple? D'après ce que nous entendons souvent, qu'est-ce que vous vous avez à dire là-dessus? Parce qu'encore une fois, ça doit faire un des défis. Voilà, si vous dites oui, je me bats pour ces réfugiés, mais j'ai pas de support, j'ai pas de voilà, je suis pas supporté par mon gouvernement. Est-ce que c'est ça le problème? D'après votre point de vue.
Pour moi, je pense que le gouvernement n'est pas tellement outillé ou n'a pas tellement de compétences, mais ils ont la volonté. Vous voyez la volonté.
Donc la volonté,
elle est là. Ouais. Mais les gouvernants ne sont pas peut-être trop compétents pour les tâches.
Mais la volonté, on voit.
Parce que si le gouvernement avait une responsabilité, en tout cas, la guerre serait déjà terminée à l'aide de la RDC. Mais parce qu'ils ne sont pas compétents, ils amènent actuellement les forces de la SADC. Il y a la SADC, il y a l'Est Africa, il y a même actuellement les Russes qui sont là. Mais je me demande pourquoi est-ce que notre armée n'est pas capable de résoudre ces problèmes. Donc on n'a pas peut-être des bons tuyaux, mais ils ont la volonté quand même de changer.
La volonté va changer. Ouais.
Mais pour ce qui concerne les jeunes, oui, il n'y a pas de soutien pour les jeunes.
Il n'y a pas de soutien pour
les jeunes. Parce que moi-même, j'ai raté une conférence que je devais participer à Paris. Mais j'avais toutes mes invitations, mais ils avaient juste demandé la lettre du gouverneur m'autorisant à quitter le pays pour aller participer au nom de la RDC. Mais je n'ai jamais eu d'approbation du gouverneur. Ouais. Donc il y a une administration aussi lente qui ne correspond pas aux aspirations des jeunes.
S'ils sont en train de vous suivre aujourd'hui, Abraham, parce que cette émission est suivie partout, en RDC, partout dans le monde, si vous avez un message à lancer, parce que vous êtes quand même un citoyen congolais, vous avez le droit de parler aux membres, à vos gouvernants. Qu'est-ce que vous envoyez comme message?
Mon message à notre gouvernement, parce que souvent ils disent nous travaillons pour vous pour améliorer votre condition. Mon message est de dire au gouvernement, nous ne voulons pas des gouvernements qui travaillent pour nous. Nous voulons des gouvernements qui travaillent avec nous. Parce que nous, les jeunes, nous avons des idées. Nous avons des initiatives qui peuvent aider et booster même les programmes du gouvernement. Donc on ne veut pas des gouvernements qui travaillent pour nous, mais on veut des gouvernements qui travaillent avec nous.
C'est profond quand même. avant de passer à Sophia, vous avez parlé de Sophia deux ou trois fois aujourd'hui. Et Sophia nous a parlé de vous aussi, que vous êtes allés vous deux à Syracuse University.
Exactement.
Comment vous qualifiez, Abraham, votre connexion avec Sophia aujourd'hui? Vous l'avez rencontrée dans ce programme et on sent que vous avez créé un partnership quelque part. Comment vous évaluez cette connexion avec Sophia?
Ah, ma connexion avec Sophia.
Ouais, je savais que vous alliez sourire.
Exactement. Sophia, c'était la personne la plus rapprochée pour moi à Syracuse. Je sais pas parce qu'on s'asseyait presque côte à côte. Mais aussi parce que nos projets, elle travaille, elle a dit dans le domaine de la sécurité au Comores.
Oui, exactement.
Elle a travaillé aussi pour l'Union africaine. Moi aussi, j'ai travaillé une fois pour l'Union africaine dans un programme EYC où j'étais le président de la communauté en Afrique de l'Est. Et donc, on s'est rencontrés, à part être tous étudiants de Syracuse, mais c'est un côté dans les mêmes durées, donc dans les mêmes domaines.
Ouais.
Voilà, donc je pense qu'on va bâtir notre partenariat ensemble pour voir ce que l'EP a apporté aux Congolais avec son expertise et ce que moi aussi je peux apporter aux Comoriens dans ces programmes avec mon expertise.
Sophia, voilà. Qu'est-ce que Abraham peut apporter à votre majestueuse expérience que vous avez déjà, ou même au peuple comorien, parce que lui dit déjà ce que Sophia va apporter.
Je pense que j'ai mis du temps à connaître profondément Abraham dans le côté professionnel, puisque comme il a dit, on n'a pas choisi nos places, on a été placés dès notre premier jour à Syracuse University. Et je me suis retrouvée à côté d'Abraham. Donc avec le temps, Abraham était devenu, il est devenu un frère. Donc cette personne avec qui on échangeait le plus, cette personne avec qui, vous savez, quand vous êtes en groupe, vous avez toujours besoin de...
Je sais exactement. Donc, besoin d'un qui n'est pas du groupe.
Exactement.
Donc Abraham était cette personne-là. Et un jour, on était en train de parler... De ce qu'il compte faire après le fellowship une fois entré au Congo.
Oui.
il m'expose ses projets. Je me suis dit, mais Abraham, wow, comment ça on a été assez aveugle pour ne pas se rendre compte qu'au-delà de la fraternité, on peut construire quelque chose de plus fort, de plus impactant, qui va servir nos différentes communautés ensemble. Exactement. Et je lui ai dit que ouais, je suis intéressée, puisque moi, enfin, les reportages et tout, c'est mon domaine. Je serais intéressée de voir comment je pourrais me rendre au Congo pour montrer un peu l'impact de la guerre, en tout cas sur la population. Qu'est-ce que les réfugiés, pourquoi on devrait les soutenir, en tout cas quelque chose qui pourra booster son projet, qui pourra montrer que oui, ce projet-là doit être soutenu, parce que voici les impacts, voici pourquoi, et voici ce que vous pouvez apporter à ces gens-là si aujourd'hui vous décidez de soutenir ce projet-là. Donc on s'est retrouvés, on a retrouvé plusieurs points en commun.
Exactement.
Et on s'est dit qu'on pourrait vraiment collaborer, et également dans notre ONG Salam. Salam s'est basé aux Comores, mais en tout cas on a des branches partout en Afrique.
C'est Moroni.
Ouais, oui. Donc aujourd'hui, une fois rentrée, je parlerai avec les membres, notamment le président de l'association, Monsieur Azar Souleyman, et voir comment on pourrait également collaborer avec Abraham et ses différentes organisations, et voir ce qu'on peut tirer chacun de l'autre. Et, et en tout cas, je suis très contente d'avoir fait sa connaissance.
D'avoir fait sa connaissance. Ça c'est vrai. Et tout ça, encore une fois, Sophia, c'est grâce à ce programme. C'est un aspect de ce programme que j'aime beaucoup, qui réunit, regroupe des gens, qui crée ces connexions dont on parle. Et ces connexions qui durent toute la vie, au fait.
Oui,
ça fait trois ou quatre fois que vous appelez mon frère, ça devient vraiment vrai.
On fait six semaines ensemble, pratiquement. Six semaines.
Wow,
et vous passez la majorité de votre temps en classe. Et une fois rentré, bon, c'est le petit moment que vous avez, c'est là que vous allez accorder à la famille, au pays, mais cette personne-là, pendant ce temps, devient la personne avec qui vous passez le plus de temps ensemble. Donc, forcément, ça devient aussi un membre de la famille.
Un membre de la famille,
avec
quoi.
Le temps, oui.
Waouh. Abraham, c'est la première fois aux États-Unis ?
Oui, c'est ma première fois aux États-Unis.
Alors, une question que je pose toujours. Comment vous nous avez trouvé ? Comment vous avez trouvé les Américains ? Comment vous avez trouvé la culture américaine ? Est-ce que c'est ce que vous pensiez déjà avant de venir aux États-Unis, ou vous étiez surpris?
Ah, la culture, comment je trouve la culture américaine, la culture, elle est d'abord diversifiée.
Oui, exactement.
Parce que c'est je veux dire, c'est la plus diversifiée. J'ai été dans plusieurs pays déjà, en Europe et en Afrique.
La diversité, c'est ici. Hein.
Il y a en tout cas une diversité, mais aussi
c'est ce qui fait leur souci.
Ouais, une Air Force des Américains. Oui. Mais aussi, ce que j'ai beaucoup aimé chez les Américains, c'est leur façon. Ils sont attachés au service communautaire. Vous allez voir un professeur de renom, comme notre professeur John, mais quand on a un travail à faire, il vient et il vous donne un coup de pouce. Ouais. Donc lui s'est dit, malgré que je suis un PhD, je ne sais pas combien de fois, mais je peux quand même clean les forêts et tout. Vous voyez, donc j'ai beaucoup aimé ça. C'est pas ce que je pensais du tout. Alors, moi, je pensais que les États-Unis, c'est un pays où la plupart des gens sont des voyous, parce que ce qu'on voit sur la télé avec Brooklyn et tout, on pense que c'est seulement mais j'étais à Brooklyn. J'ai vu aussi des gens responsables.
Bien sûr, Brooklyn.
J'ai vu des gens responsables. Ouais. J'étais au pont de Brooklyn. J'ai visité New York parce qu'on était à New York.
Ouais.
Il y a des gens responsables, en tout cas aux États-Unis.
Ouais.
Il n'y a pas que des fous.
Sophia, et vous alors? Il n'y a pas que des fous. Moi, j'ai grandi à Brooklyn. En fait,
c'est
ma ville, New York City, c'est ma ville. Merci beaucoup. Je voulais savoir comment vous nous percevez là-bas où des fous.
Oui. Il n'y a pas que des fous.
Il n'y a pas de fous. Non, ça, c'était une bonne ligne. Je pense qu'on va se rappeler de cette émission. Il n'y a pas de fous. Il y a aussi des fous.
Parce que vous savez, Roger, comme la RDC disait, je parlais de la RDC. La RDC, dans des pays occidentaux, le pays est vu comme un pays de guerre. Goma. Quand vous apprenez que je viens de Goma, mais les gens disaient, mais comment vous vivez là-bas?
Exactement.
Là, il y a l'M23, il y a l'Ebola,
il y a tous ces groupes.
Il y a même le volcan Irakongo qui fait l'éruption. Comment vous êtes à Goma?
Ouais.
C'est comme ça, je dis, venez aussi. Hein. Moi aussi, j'avais une autre perception des États-Unis et de New York.
Ouais.
Mais quand je suis arrivé, je me suis dit, mais non, la télé, les films souvent.
Parce que les gens oublient aussi que les États-Unis.
Les narratifs n'est pas toujours.
Les gens oublient aussi que les États-Unis, c'est un demi-continent, en fait. C'est pas un pays, c'est vraiment, comme vous le voyez. Moi qui suis ici plus de 35 ans, je peux pas vous dire que j'ai fait tous les États américains, je connais pas.
C'est clair.
Ouais. Syracuse, moi, j'ai grandi à Manhattan, à New York, à Brooklyn. Syracuse, j'ai jamais été. Pourtant, c'est là à côté. Voilà, par exemple. Et voilà. Mais vous aussi, Sophia, alors votre impression, c'est la première fois aux États-Unis, quoi?
Non, c'est la deuxième fois.
Et vous étiez où la première fois?
La première fois, c'était à New York City.
À New York City.
Yeah.
Ah, d'accord. Et puis vous êtes rentrée.
Oui.
Ah, d'accord. Donc vous êtes vraiment New-Yorkaise. Alors, comment vous percevez cette culture américaine?
Bon, déjà.
Déjà, vous êtes remis une américaine de toutes les façons.
La taille ou.
Non. Je parle pas de la taille. Hein. Bien que la taille ici, on va pas toucher, mais la taille ici, vous êtes parce américaine. Que... Mais moi, je parlais plus de ce côté mantoutiste.
J'ai un ami, quand je venais, il m'a dit non, mais tu seras très confortable là-bas. Il m'a dit tu seras très confortable là-bas.
Ah bon? Il a dit ça?
Oui, je me suis dit.
Il m'avait dit qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Bon, déjà, je pense que l'Amérique, on peut pas réellement donner une image des États-Unis d'Amérique. Pourquoi? Parce que ça dépend encore une fois du state, de là où vous êtes.
Very good.
Parce que par exemple, moi, la perception que j'avais quand j'étais à New York City, mais c'était fou. Les gens, ils étaient, mais c'est un endroit mais très occupé. Il y a personne qui a votre temps. Et je croyais parler anglais hein, à ce moment-là, mais j'étais perdue et je suis tombée sur je devrais retourner à l'hôtel, donc je stoppe au moins 3-4 personnes. Sorry. Et puis ils n'ont même pas pris le temps de répéter ça en mode soit tu l'as compris, soit tu l'as pas compris, et c'est tout.
Et ce qui est bien, sans couper la parole, ce qui est bien avec ces Américains, c'est pas comme dans d'autres pays en Europe où j'ai été. Quand ils vous voient dans leur tête, vous êtes américain ou américaine.
Oui.
Donc ils parlent là sans, parce que comme Abraham disait, nous sommes diversifiés. Donc il y a pas une certaine coloration.
Oui. Ça,
on voit dans leur tête d'abord, vous êtes des Américains. Donc ils vont pas vous parler lentement. Ils disent c'est un Américain.
Ouais.
Et c'est après quand vous allez dire non, je suis pas là, ils se rendent compte. Ouais.
En tout cas là, je me suis remis en question. Je me suis dit bon, peut-être que je parle pas anglais, donc je crois que je devrais refaire encore
English
un petit effort. Et une fois rentrée, j'ai dit à mon mari, non, mais je crois que je parle pas anglais finalement.
Qu'est-ce qu'il a dit le pauvre?
parce que lui, je l'appelle Obama parce que
il parle
couramment, très très bien, c'est un interprète d'ailleurs.
Oh, wow.
Il parle très très bien anglais.
Ouais.
Donc il me disait un peu que j'ai hâte de ton retour, enfin le feedback que tu vas me faire. Et quand je lui ai dit je crois finalement je parle pas anglais, il m'a dit non mais il a tellement rigolé.
Oui.
Mais avec le temps, quand je suis venue à Syracuse, c'était autre chose. Ouais. Au début, bien sûr, il y a eu quand même ce challenge là je pense d'ailleurs c'est l'une des choses qui font que j'ai beaucoup apprécié ce programme là parce qu'aujourd'hui, je pense quel que soit ton niveau en anglais, on va se comprendre. On va se comprendre parce qu'au début c'était toujours là à dire au professeur « Ah, est-ce que vous pouvez réduire un peu la vitesse ?» Mais avec le temps, je crois, on s'est tous adaptés.
Oui.
Donc, c'était l'une des meilleures choses qu'on a tirées de ce programme-là. On a pu solidifier notre langue. Voilà, quand j'étais à Syracuse, c'était autre chose, entre l'humilité des gens, entre la gentillesse des gens, entre le sens du partage. Une fois, c'est peut-être pas très pro parce que je mentionnerai pas son nom pour pas qu'elle soit virée, mais j'étais partie manger et je crois que j'avais oublié ma carte. Et la dame, elle me dit, c'est pas grave, tu peux aller. Alors c'était une blanche. Donc moi je m'attendais à ce que nous on avait un peu cette tendance qu'on voyait à la télé, ce qu'on attendait à la radio, le racisme et autres. J'ai pas vécu ça à Syracuse. Et d'ailleurs je pense les meilleures personnes qu'on a connues là-bas c'était des blancs et ils étaient super bien avec nous. John par exemple, il y a une expérience que je ne cesserai de mentionner. Le niveau aujourd'hui qu'a atteint Syracuse Université, il n'a plus rien à prouver en fait. Donc on vient, on nous donne des certificats et il manquait une précision du programme qu'on avait fait. Donc une fois qu'on s'est rendu compte, on a fait un email à John, qui a été le coordinateur du programme, lui. Donc on s'attendait pas à ce qu'il prenne au sérieux, parce qu'on s'est dit rien que le fait d'avoir Syracuse dans votre certificat, c'est une porte. Mais on n'était pas prêts. Hier, on l'a vu courir à droite à gauche avec et on était en mode John. Il nous a donné de nouveaux certificats, c'est-à-dire il a couru un peu partout avec tout ce qu'il a à faire. Mmh. Il a couru partout. Il nous a cherché un à un pour nos 25 participants
pour vous donner
de nouveaux certificats. C'est-à-dire ils ont refait d'autres certificats avec en ajoutant ce dont nous avons pu avoir.
Donc
et puis ils nous ont envoyé ces certificats là. Donc je me dis non, je peux pas avoir une autre vision de, en tout cas des gens de Syracuse que moi j'ai expérimenté, c'est des gens magnifiques et ils vont beaucoup me manquer.
Ça c'est profond. J'aime beaucoup la segue, ils vont beaucoup me manquer comme Sophie le dit, parce que la question que j'allais poser maintenant Abraham, c'est suivant, parce que Sophie a dit ils vont beaucoup me manquer. Comment vous comptez garder cette connexion avec ces Américains que vous avez rencontrés ici, John, vous avez cité plusieurs fois, ou cette université Syracuse? Parce que d'après ce qu'on entend, ce que vous, Liali, quand vous partez, c'est pas fini. En fait, c'est même là où ça commence. Est-ce qu'il y a de projets? Vous pensez garder contact avec ces gens, voir les inviter, créer plus des connexions? Qu'est-ce que vous avez comme idée de garder ces connexions?
D'abord, comme Sophie a dit, à Syracuse, c'était vraiment parmi les meilleures universités ici aux États-Unis. Mmh. D'ailleurs, c'est la première université en public management ici. Mmh. Mais l'université a pensé l'après, notre participation au programme. L'université nous a donné... Vous pouvez imaginer une université qui vous donne des mails professionnels.
Waouh.
Ouais.
Donc avec Syracuse, .edu.
Exactement. Syracuse nous a donné des mails professionnels. Moi, j'ai mon net ID professionnel de Syracuse. Mmh. Donc, quand j'écris directement un message ou un email à un Américain, il comprend directement que je viens de Syracuse.
Super!
Et l'université nous a promis que nos mails seront fonctionnels pendant une année.
Ah
même
bon?
Après les programmes.
Waouh! Parce qu'on a des contacts avec...
Exactement. Parce qu'on a pris des contacts avec différentes personnalités aux États-Unis.
D'accord, ils veulent que ça soit...
On était en contact avec eux.
Okay.
Alors l'université nous offre cette possibilité de continuer...
Oh, c'est un bon détail ça.
Voilà, de continuer nos conversations, mais aussi continuer sur les projets sur lesquels on travaille. Parce que l'université nous demandait, il faut toujours écrire avec votre email, parce que ça vous donne un peu plus du poids, parce que quand on voit que vous venez de Syracuse... parce que c'est une université qui n'a rien à prouver comme Sophie
l'a dit.
On vous trust, on vous fait confiance directement.
Ouais.
Voilà. Et on continuera à utiliser toutes ces possibilités-là
pour garder contact.
Et
ça vous donne un certain respect quand
exactement.
On voit vous écrivez un email venant de Syracuse.
Syracuse. Ouais.
Et il y a pas que ça. Hein. Ouais. Moi personnellement, dans mon Focus Project, ce qui concerne l'inclusion des jeunes et puis le programme, comment je compte le commencer, c'est commencer par une formation qui réunira des membres, des autorités déjà, actuelles autorités, mais également des jeunes leaders qui souhaitent faire leur entrée, mais en tout cas pas n'importe lesquels, mais des jeunes compétents qui sont déjà actifs dans leurs différentes communautés, qui souhaitent rentrer en politique ou faire leur entrée dans la fonction publique.
Ouais.
Ça facilitera le networking, ça facilitera également donc aussi je pense parmi les choses qu'on manque aujourd'hui aux Comores, c'est que certains, pas tous en tout cas, mais certains de nos leaders le sont, ils ont les compétences peut-être d'être là où ils sont, mais il manque en tout cas ce charisme-là de le public speaking par exemple. Je personnellement je ne peux pas faire confiance à un responsable qui n'est pas en mesure de me convaincre.
Sérieux?
Non. Tu n'es pas en mesure de me convaincre sur tes perspectives, de me convaincre pourquoi je devrais te faire confiance.
Ça,
pourquoi
c'est le côté américain de Sophia.
Donc je pense que ce sont des détails qu'on ignore pourtant, mais le public speaking.
Parce que ça, c'est très important ici aux États-Unis, hein, le public speaking.
Ah, mais bien sûr.
Et si vous pouvez pas convaincre, comme vous le dites ici, même un boulot, vous risquez de ne pas l'avoir. Hein.
Bien sûr. Et même le dressing code, j'ai envie de dire, vous êtes en autorité. Il y a quand même des codes diplomatiques sur comment vous habiller. Il y a des couleurs quand même à ne pas vous permettre quand vous représentez. Donc, je pense que ce sont des petits détails qui manquent énormément aux Comores, que j'aimerais implémenter à travers ce projet-là. Et j'ai identifié, par exemple, on a eu un professeur en public speaking à Syracuse. Oui. J'ai parlé avec lui, j'ai parlé avec le coordinateur de notre programme. Il est d'accord à venir aux Comores quand l'occasion se présentera, afin de donner cette formation-là. Et l'idée serait de faire bénéficier aux autorités actuelles ils sont convaincus, puisque je suis convaincu.
Il faut leur vendre l'idée.
Oui, bien sûr, je suis convaincu que ça ajoutera de la valeur dans qui ils sont, dans ce qu'ils font. Et voilà, donc je pense que c'est toujours une manière, ça fait partie des continuités de ce programme-là. Ouais. Et il n'y a pas que ça, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui pourront se créer à travers ça, puisque je pense que si demain Abraham a besoin, dans son programme par exemple, a besoin de venir avec une formation.
Exactement.
Ou échange d'expérience.
Il a dit lui-même, les gens venant d'autres pays aussi.
Bien sûr, donc probablement, quand tu te dis, de tous les facilitateurs qu'on avait, il y avait Steve, il y avait John, il y avait Steve Ward, je vais les appeler. Donc, il y a toujours, je trouve qu'il y a toujours cette possibilité de continuer à collaborer même après le programme.
Très important, très très important. On s'approche déjà vers la fin de notre entretien de ce soir avec Sophia et Abraham qui sont là avec moi dans ce studio de RM Show ici à Washington, la capitale américaine. Nous sommes à l'hôtel Omni Sherm où les Yali se rencontrent, bien sûr. Un programme qui avait commencé ici aux États-Unis initié par le président Barack Obama, qui n'a jamais cessé, parce que le gouvernement américain et le département d'État, pour être plus précis, trouvent une importance de continuer à travailler avec ces leaders, ces jeunes leaders africains. Une très très bonne initiative, d'après en tout cas ces 700 jeunes leaders participants au Mandela Washington Forum. Avec moi Sophia Abraham ici. Sophia, une très 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 bonne idée. Alors un message à tous ceux qui vous ont reçu ici, le département d'État américain. On a vu que vous êtes en train de travailler avec tout un staff ici à l'hôtel Sherm. Les amis avec qui vous avez participé, les 25 participants, vous avez dit à Syracuse, vos professeurs, ceux qui sont restés au pays, je ne sais pas, un message.
Franchement, le message serait de leur dire que s'ils ont un jour douté ou de l'efficacité ou de leur investissement, je pense qu'il n'y a pas, il n'y aura pas un meilleur moyen d'investir en Afrique que ce qu'ils sont en train de faire. C'est le meilleur investissement qu'ils font pour l'Afrique, puisque le futur de l'Afrique, c'est la jeunesse africaine. Donc, à travers ce programme-là, leur investissement est plus que remarquable. Et je voudrais les rassurer que ce programme aura de l'impact dans les prochaines années à venir, puisque la communauté Yali devient de plus en plus énorme. Et ces gens-là sont des gens aujourd'hui qui sont de plus en plus influents dans leurs différentes communautés. Peut-être que si ces gens-là un jour se retrouvent et se réunissent et décident d'agir pour le bien du continent africain, il y a quelque chose de très spécial qui pourrait se faire. Et merci à eux pour cette initiative. Merci à Obama, président Obama, d'avoir pensé à l'Afrique. Et on remercie également ceux qui sont là, qui continuent encore d'accompagner cette initiative. Et on les rassure que c'est pas des efforts en l'air, et que bientôt, s'ils ne sont pas encore en train de voir les résultats, et j'en doute, je pense que les résultats se font sentir, mais bientôt ils le ressentiront encore plus.
Encore plus. Waouh. Merci infiniment. Un message fort, un message à Pisson et à Abraham, vous aussi, vous avez la parole.
Comme Sophia a dit, elle remercie en tout cas les départements, parce que c'est un investissement qu'ils sont en train de faire. Certainement que les résultats ne seront pas visibles tout de suite, du temps. Prendre le temps, qu'il faudra pour que ces jeunes qui ont été ici, ces 700 jeunes, rentrent dans leur communauté pour impacter, apprendre et à transmettre aussi les savoirs aux autres. Parce que, par exemple, moi, je viens des organisations où je suis le fondateur. Il y a une organisation où j'ai un staff de 16 personnes. Il y a une autre où j'ai un staff de 24 personnes comme des volontaires. Donc, si moi je suis outillé, c'est sûrement qu'eux aussi
seront outillés. Ah oui, eux aussi seront.
Donc, ce sont des leaders à devenir. Et un message pour les jeunes aussi qui ne puissent pas baisser les bras, qu'ils continuent à travailler pour leur communauté. Parce que c'est au finish l'Afrique et le monde qui gagnent. Parce que si on amène la paix en Afrique, si on amène la paix en RDC, toute la communauté africaine et internationale sera bénéficiaire.
En profite, en tout cas.
Donc c'est vraiment un bon investissement que les États-Unis est en train de faire pour soutenir les jeunes africains qui ont des visions. Et d'ailleurs, ils ont déjà commencé à avoir des résultats avec les récentes cohortes, les gens qui sont venus avant nous.
Ah bon, ouais.
Et pour nous, pour ce qui me concerne, ils ne seront pas déçus, certainement.
Ils ne seront pas déçus.
Il y aura en tout cas des pauvres qui vont impacter la communauté, des Goma et les aussi de la RDC.
J'adore ça, j'aime ça. Et à tous les jeunes Africains qui désirent postuler dans ce programme, ne baissez pas les bras. Si vous l'avez fait une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, ne vous découragez pas, continuez de le faire. J'ai rencontré ici des jeunes qui l'ont fait plus de 10 fois puisqu'ils ont commencé à le faire depuis leur bas âge, mais ils ont compris en fait, ils ont compris que il ne suffit pas de postuler, il y a quand même des choses que eux ils vont regarder puisque eux ils cherchent des gens qui impactent leurs différentes communautés et ils recherchent des gens qui font la différence là où ils vivent. Donc il ne suffit pas d'avoir un doctorat, il ne suffit pas d'avoir un master, il ne suffit d'ailleurs ils ne demandent aucun de ces choses-là, ils demandent pas, aucun de ces choses-là. Donc détrompez-vous et faites la différence, engagez-vous dans tout ce que vous faites, croyez en ce que vous faites et continuez de postuler. Un jour vous serez accepté et quand vous y serez, vous ne serez pas déçu. Je suis sûr que vous partirez avec quelque chose de bon.
Wow. Et surtout pour ajouter, pour ce programme, moi j'ai postulé 4 fois pour ce programme.
Non, c'est pas vrai.
Mais je te dis,
j'ai
joué 3 fois, j'ai réussi ma 4e fois.
Bah, attends,
voilà et j'ai
les 4 fois là, quand vous appliquez là, qu'est-ce qu'on vous dit la première fois là? Non, ça ne va pas. Qu'est-ce qui vous donne comme. Pourquoi on vous dit que vous n'avez pas été retenu? Ils doivent quand même répondre.
Pour moi, pour ma première fois, j'avais appliqué, j'étais au Burundi, j'étais étudiant. Et il m'avait appelé sur téléphone, il m'avait dit, mais toi tu es au Burundi, tu devrais être au Congo, ils m'ont désélectionné
directement. Ah.
Ouais, la deuxième fois, ils m'ont appelé pour une interview, j'ai passé l'interview. Et j'étais très bon. Moi, je suis sorti de la salle.
Ils appellent où pour l'interview? Ça se passe où?
Ça se passe pour les gens qui sont en RDC. Ça se passe à l'ambassade.
Oui.
Mais pour les gens qui sont à l'est, parce que vous voyez, Goma,
c'est très loin. Ouais.
On a passé ça en ligne.
En ligne,
Pour la troisième fois, ils m'ont pas appelé. Je n'ai eu aucune notification. Ouais. Et pour la quatrième, quand ils m'ont appelé, je me suis dit, waouh, maintenant là, je dois faire tout mon possible pour passer. Et voilà, je suis là.
C'est pas aussi facile que ça.
C'est pas facile.
Même si il faut pas baisser les bras. Essaye de faire comme si c'est facile.
Oui, non, parce que pour moi, j'avoue que j'ai peut-être postulé au bon moment, puisque j'ai pris le temps de me construire en quelque sorte avant de le faire.
Ouais.
Donc c'était ma première fois.
Ah.
Et j'étais surprise, puisque j'étais acceptée.
Ouais.
Et c'était aussi pour moi, c'était comme une bénédiction, puisque en fait j'étais à 8 mois de grossesse, je pense, quand j'ai postulé.
Oh non.
Et quand ils m'ont appelé, j'avais un garçon, il s'appelle Marianne.
Oh.
Donc je me suis dit, bon, c'est peut-être un porte-bonheur, puisque quand je venais d'accoucher, c'est là ils m'ont appelé, j'étais pas au coma, puisque j'avais accouché en Tanzanie, et quand ils m'ont appelé, j'étais en mode, ah, mais je suis pas au coma pour des raisons sanitaires. Ils ont dit, ben, d'accord, on peut toujours le faire en ligne. J'étais contente parce qu'ils le proposent pas. Oui, ils le proposent pas, on le fait sur place.
C'était la première fois?
C'était la première fois.
Ah, d'accord.
Mais, c'est pourquoi je dis, même quand vous essayez toujours de faire le travail derrière. Et vous demander qu'est-ce qui a bloqué.
Ouais.
Comme Abraham a
dit, ouais.
Puisque lui, il s'est dit la quatrième fois, j'ai pas droit à l'échec. Mais là, il avait déjà construit plusieurs projets.
Oui.
Il avait déjà impacté ses communautés. Donc il y avait de quoi être sélectionné, il y avait de quoi il mérite sa place
d'être ici.
Mais aussi moi j'ai appris de mes échecs, parce que pendant les 3 fois que j'ai échoué, je m'étais dit, ces échecs ne sont pas comme un échec, quoi.
Un échec, ouais,
mais j'ai pris mes échecs comme une opportunité de me construire et de grandir.
De grandir.
Voilà.
En tout cas, merci beaucoup à vous deux. Merci Sophia, merci Abraham, en tout cas pour le temps que vous nous avez accordé. Hein.
Merci, merci Roger, c'était un plaisir d'être avec toi
super,
sur ce plateau.
Super,
c'est vraiment un plaisir.
Merci. Alors les amis, nous approchons vers la fin de cette émission. Bien sûr, d'après le département d'État américain, les objectifs de l'initiative pour les jeunes leaders africains YALI sont d'investir dans une nouvelle génération de leaders africains en améliorant leurs compétences en leadership, en dynamisant l'entrepreneuriat et en favorisant les connexions avec des leaders innovants, vous avez compris, avec Sophia et Abraham ici. Et bien sûr aussi en tirant parti de l'énergie de jeunes africains, YALI développe des initiatives économiques en collaboration avec des partenaires publics et privés à travers le continent. YALI priorise aussi l'élargissement de son engagement avec la jeunesse africaine pour assurer une croissance continue et un impact positif. Merci à vous qui êtes restés à l'écoute de cette émission. On s'est dit comme d'hab, Jah bless, peace Africa.